Salut monsieur Martin.
Hey, salut monsieur Eric et bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour, comment tu vas?
Bah, ça va, c'est l'été qui approche, on sort de plus en plus les bécanes. Il fait beau, il commence à faire beau.
La saison du GP a bien démarré.
La saison du GP a
devant la télé, il fait beau.
Sauf pour monsieur Quartararo qui est quand même pas au top, mais bon, on en reparlera plus tard.
Ouais, on fera l'oreillette tout à l'heure.
Donc là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui?
Bah, aujourd'hui, on a le retour de Bruno.
Le retour de Bruno, alors je sais pas si vous vous souvenez, c'était je crois au mois de
octobre.
Où on, donc on avait interviewé Bruno qui avait un projet de bénévolat de...
Bon, c'était surtout faire le tour de l'Afrique.
Quand même. Faire le tour de l'Afrique en moto.
Ouais. Hein. Mais
donc il est parti.
Avec une partie quand même, tu as raison.
Avec une partie quand même.
Sociale, enfin comment on peut dire.
Oui.
D'engagement.
D'engagement.
Voilà. Humanitaire.
Humanitaire.
Voilà, voilà, c'est modeste, mais...
Ouais. Donc Bruno qui est de retour avec nous.
Bonjour Bruno.
Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs.
Et qui va nous raconter cette expérience, donc, puisqu'il avait prévu de descendre par le Sénégal, faire toute la côte ouest jusqu'en Afrique du Sud et de remonter par la côte est, plus ou moins. C'était donc avec une date de départ, mais pas de date de retour. Donc il comptait sur 5-6 mois, grosso modo.
Oui.
Mais voilà, donc il va nous raconter son aventure, puisque donc il est rentré un petit peu plus tôt.
Donc on fait un petit rappel, donc tu étais parti avec des stérilisateurs d'eau.
Voilà, ou... des purificateurs d'eau, très exactement.
Les stérilisateurs, c'est pas pour...
Non.
Voilà, des purificateurs, je voulais donner aussi un peu de sens à mon voyage. Souvent les voyages sont un peu égoïstes et bon, on peut faire quelque chose, nous, à notre niveau. Et donc l'idée, c'était de distribuer des purificateurs d'eau dans des villages au hasard de mes arrêts. Et voilà, donc j'en avais 32 au départ, j'ai distribué les 32.
Donc tu es parti donc début...
Le 5 octobre, je suis
5
parti.
Octobre, ouais. 5 octobre, sur Dakar, dans un
c'est
premier
ça.
Temps,
avec la famille.
Avec des amis.
Des là. Amis,
alors,
ouais.
On a fait le Sénégal en 3 motos. Et ensuite, je partais seul à partir de Dakar.
Donc
seul.
Donc, tu es parti à partir de quand, tout seul?
J'ai dû partir vers le fin octobre. J'ai dû partir.
D'accord, vous avez mis un mois quand même à vous promener.
Oui, on a pris le temps. Ouais. Ouais. On a visité le Maroc, on a passé la Mauritanie, on a passé deux semaines et demie au Sénégal. Oui, c'est ça. Fin
donc tu avais déjà donné des purificateurs?
Non, pas
ça,
tant que j'étais en groupe, parce que bon, c'est quand même quelque chose où il faut prendre le temps, donc voilà, ceux qui m'accompagnaient étaient là venus pour le loisir, donc autant en profiter. Ouais. Ensuite, j'avais largement le temps de distribuer, hein. J'en aurais eu 10 fois plus,
oui,
j'aurais trouvé le preneur, bien évidemment, mais comme je l'avais dit... sur une moto, c'est pas extensible, hein, y a pas beaucoup de place.
Même si c'est une BMW, hein, faut le dire.
Oui.
Même si c'est un camion.
Oui.
Donc Sénégal et Sénégal, donc tu pars tout seul ou t'avais quand même quelqu'un qui...
Non, je pars seul. Donc là, seul. Je pars seul. Direction le sud du Sénégal et
la Gambie.
Le premier pays. Oui, j'ai traversé la Gambie et ensuite, oui, parce que la Gambie est une
terre
dans le Sénégal,
Sénégal.
Tout en longueur. Et ensuite, la Guinée-Bissau,
ouais.
Qui est une ancienne colonie portugaise.
Et donc là, ça se passe bien?
Oui.
C'est quoi, c'est de la piste là, de la route?
Non, la route, j'ai pas cherché particulièrement de piste. La piste, elle vient sans que tu la demandes, donc de temps en temps, c'est bien de faire du bitume ou du pseudo-bitume, parce que bon...
Des fois, le bitume, c'est plus troué que les pistes.
Oh oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, j'ai passé la Guinée-Bissau, et ensuite, alors le passage de la Guinée-Bissau, entre la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry a été assez folklorique, hein, puisque je suis passé à une frontière où il y avait quasiment personne, si ce n'est les locaux, où les véhicules automobiles ou camions ne pouvaient pas circuler, c'était une piste simple pour moto ou piéton.
Ou vélo.
Et là, je me fais arrêter par des jeunes qui me disent que je ne peux pas y aller tout seul, qu'il faut qu'ils m'accompagnent pour passer, tout ça. Bon, je les ai laissés parler, je dis oui. Donc on négocie un prix, soi-disant. Et effectivement, heureusement qu'ils m'ont accompagné parce que Je crois que ça a été l'enfer. Des ornières, de la boue. Ils étaient une dizaine et c'était pas trop pour faire passer la moto.
Suivaient à pied ?
Alors, les trois premiers avaient pris une moto chinoise et le départ était roulant. Et à un moment, ils ont laissé la moto chinoise sur le côté. Et là, on est parti. Eux, ils sont partis à pied. Ils ont trouvé d'autres gars avec eux. Et ils sont venus à une dizaine. Ils m'accompagnaient. Alors, leur m'indiquaient le chemin. Les autres sur les côtés pour pas que je glisse, etc. Enfin, de la boue, des ornières hautes plus de 50
cm. C'était quoi, saison des pluies, là-bas, non ?
Non, c'était la fin de la saison des pluies. Mais l'eau était bien, bien stagnante encore. Et même à un moment, j'étais tellement épuisé qu'il y en a un qui a pris le guidon de la moto et qui a continué. Moi, j'ai continué à pied. J'étais pas mécontent, j'avoue, j'avais plus de bras. C'était
sur combien de kilomètres, ça ?
Une dizaine de kilomètres, à peu près.
Ah ouais.
Ouais. Mais ah oui, l'enfer. Franchement, l'enfer. Et une fois cet enfer terminé, donc c'est une zone entre deux frontières, en No Man's Land, comme on appelle. Et j'arrive à un premier poste de police, et là j'étais épuisé, j'avais plus d'eau, je demande de l'eau à un policier, il m'offre une bouteille d'eau, et je lui demande si je peux dormir là, parce que je ne pouvais plus, il était hors de question que je continue, il me dit non, ça m'embête, mais par contre plus loin, tu as le poste frontière avec la Guinée, et là tu vas pouvoir te reposer, il y a un autre motard qui campe déjà, donc voilà, tu n'as juste qu'une rivière à traverser. Oui. Et je lui dis, oui, pourquoi ? Oui, une rivière, mais il y a un pont. Non, il n'y a pas de pont. D'accord. Et comment on fait ? Il va t'accompagner. Il y avait un gars avec une moto chinoise. Il va t'accompagner à la rivière. Ils vont te faire traverser sur une pirogue, la moto.
Donc, sur une pirogue, le BM.
Ouais. Et ils ont chargé la moto. Ils l'ont fait parce qu'ils sont habitués. Sur la pirogue. Alors d'habitude, ils chargent 2-3 chinoises sur une pirogue. Et là, ils ont mis que la Berta. Que la grosse Berta. Ils ont mis et ils l'ont chargé. Et pirogue à main, pas à moteur. Hein. Donc on a fait 80 mètres environ de traversée avec un petit courant. Tu vois, pas fort le courant, mais bon. Et on était 3 personnes sur la pirogue, plus la moto. Et il a tout traversé à la pagaie. Et d'autre côté, ils m'ont déchargé la moto. Et voilà quoi.
Enfin, bon, et là, c'était... t'as campé, t'as retrouvé un autre.
Et motard. Après, j'ai retrouvé au poste aux frontières, j'ai trouvé un motard écossais qui était bloqué parce qu'il avait oublié de prendre son visa. D'accord. Donc il pouvait pas entrer, il pouvait pas sortir presque. Donc galère pour lui.
Et donc ça, c'est ta première grosse expérience.
Ah ouais, celle-là, ça a été... c'est la plus folklorique. Et c'est la seule où j'ai perdu les photos et les films. J'ai merdé.
Tu les as dans la tête.
Hein. Ouais, moi, je les ai, mais bon, c'est dommage parce que vraiment, à la radio, on ne peut pas montrer de photos et de films, mais c'est vraiment épique, le chargement de la moto. Enfin, voilà, quoi. C'est un gros, gros souvenir.
On fait une vraie solidarité africaine, quand même,
ah, oui,
sur
oui.
ce coup-là.
Oui. Non, mais pour
là,
ça,
les gamins, c'était...
Ouais, pour ça, l'Afrique, il n'y a aucun souci. Il y a toujours une solution. C'est ça qu'il y a de bien chez eux. C'est-à-dire que, voilà, un problème n'est pas un problème. On trouve toujours une solution. Et vraiment, bon, je les remercie, parce que même si j'ai donné un petit peu d'argent, mais bon, c'est assez dérisoire par rapport à ce qu'ils ont fait, parce que sinon, je pense pas que je passais, je me retrouvais bloqué, pas pouvoir faire demi-tour puisque le chemin était trop étroit, une fois engagé, bon, enfin bref. Donc je les en remercie, mais ça a été vraiment une aventure humaine extraordinaire, ce passage aux frontières de la Guinée-Bissau à la Guinée-Conakry, voilà. Donc au retour, je ne suis pas repassé par là. Hein.
Donc passage là, tu as réussi à passer,
oui.
Et donc tu as continué direction...
Voilà. Et la Guinée-Conakry, donc j'ai trouvé ce pays le plus accueillant, franchement des gens formidables. Petite anecdote, je me fais arrêter par un contrôle gendarmerie, il était 15h, 16h, et à cette heure-là je commence à chercher à dormir, je ne veux pas rouler de nuit bien évidemment. Et donc je demande aux gendarmes s'ils savaient où est-ce que je pouvais planter ma tente, et bien ils me montrent, et ils me disent « mais tu la plantes là, à côté de nous, tu seras en sécurité, il n'y a pas de souci. » Finalement, j'ai même pas planté la tente, ils m'ont passé en lit. Voilà, il y a un des gendarmes qui m'a demandé mon numéro de téléphone parce que j'allais à Conakry et il avait son frère qui habitait à Conakry pour que je dorme chez son frère. J'ai dormi chez son frère, j'ai passé 2 nuits. Enfin voilà, de l'accueil extraordinaire.
Ça repose et ça redonne du...
Ah oui, oui. Ah mais c'est... Oui. Après, tu oublies ton passage aux frontières complètement. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. C'était pas le grand luxe chez le gars, mais tu t'en fous quand tu voyages, quand tu pars en voyage de cette manière-là, ça n'a pas d'importance. C'est l'échange qu'il y a avec avec ces gens-là qui n'ont rien. Un jour, j'étais pareil, je voulais pas planter la tente parce que j'étais un peu pressé le lendemain et il y a beaucoup d'humidité, donc le temps que ça sèche, etc. Et donc, je m'arrête à une station-service et il y avait un bureau qui était complètement vide et je demande au gars si je peux dormir là. Il me dit, écoute, attends le patron, donc le patron refuse, tout ça. Bon, j'étais un peu déçu parce que les gens sont plutôt gentils, plutôt sympas. Et bien, l'employé me dit, écoute, tu m'attends, je finis à 19h, enfin à 7h, je finis à 7h et tu viens dormir chez moi. Et je suis parti dormir chez lui, voilà, enfin, j'ai mangé chez lui aussi. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment des rencontres extraordinaires. Ouais. Et si je retourne à Conakry, je peux appeler le gars qui m'a accueilli, j'irai chez lui sans aucun souci, quoi.
Parce que là-bas, on parle français, là.
Oui, toujours, cette partie-là, oui. Guinée-Bissau, c'est portugais, donc c'est plutôt portugais. Sénégal, français. Guinée-Conakry, français. Côte d'Ivoire, français. Voilà.
Donc après Conakry.
Après Guinée-Conakry, c'est la Côte d'Ivoire. Alors là, il y a un phénomène qui s'est rajouté, c'est-à-dire que j'ai traversé la Guinée-Conakry, donc à 80 km de la frontière, on échange avec un motard français qui était devant moi, lui, il était au Ghana, et il me dit que pour rentrer en Côte d'Ivoire, en plus du visa, il faut un laissez-passer. Je ne comprenais pas pourquoi un laissez-passer. Si on nous avait donné le visa, c'est qu'on pouvait passer. Alors je croyais qu'il confondait avec le carnet de passage en douane pour la moto, donc je dis ok, bon, écoute, je verrai. Donc je me présente à la frontière et effectivement, je n'avais pas le laissez-passer. Donc demi-tour à la ville, la grosse ville en Guinée-Conakry. Ceci dit, au retour, je les saluais, je ne m'arrêtais même pas parce qu'ils me reconnaissaient, ils savaient. Bon, enfin, c'est vraiment. Nous, maintenant, il n'y a plus de frontières, mais quand on va dans d'autres frontières, ce n'est pas du tout comme ça. Et là, ils m'avaient reconnu, ils savaient que j'allais peut-être repasser, ils m'ont enlevé la chaîne quand ils m'ont vu arriver. Je leur ai dit à demain. Donc j'allais chercher ce fameux laissez-passer, bon, c'est un peu une arnaque, mais $160, un boulet papier, bon voilà, mais c'est comme ça, parce que la Côte d'Ivoire a ses frontières terrestres fermées, normalement.
Donc, avec tous les pays.
Tous les pays, à cause du Covid. Mm-hmm. Et c'est le seul pays, d'ailleurs, où j'ai fait un test de température, j'ai discuté avec un médecin, et c'est le seul pays où, pour entrer, il a fallu que je fasse ça. Et donc le seul pays où on a fait ce genre de test. Et la Côte d'Ivoire, ça a été le moins accueillant des pays, puisqu'à Abidjan, j'ai eu une petite... ça a été un peu chaud, le passage de la capitale, dans un quartier populaire. Heureusement qu'il y avait deux CRS, parce que je me faisais traiter de white man... ça devenait un peu chaud, un peu d'attroupement, etc. Et les CRS s'en sont vus à écarter un peu la population. Et voilà. Mais bon, c'est pas non plus dramatique en soi, c'est quelques petits moments.
Quand t'es tout seul, c'est quand même...
Oui. J'ai eu la chance de tomber sur ces deux CRS, parce que je sais pas comment ça se serait terminé. Voilà, et donc à Abidjan, mais c'était la capitale où j'allais faire mes visas suivants et où j'ai appris que le Nigeria ne délivrait plus de visas pour les étrangers dans un pays qui n'est pas le sien. C'est-à-dire qu'il fallait que je retourne en France, à l'ambassade du Nigeria, au consulat du Nigeria en France, pour faire mon visa. Bon, voilà, je ne roule pas sur l'or non plus, et donc j'ai calculé...
Tu ne pouvais pas le faire à une ambassade qui était en Côte d'Ivoire. Non.
Et le faire par quelqu'un ici, ce n'était pas possible non plus.
Non, il faut te présenter. Donc voilà, donc ça a interrompu mon voyage, mais l'essentiel, c'est que j'ai distribué l'ensemble des kits de purification d'eau, et avec un accueil encore en Guinée, mais... Les gens allaient chercher des seaux pour que je leur fasse un individuel, donc ça je pouvais pas. Alors j'avais adopté une procédure, c'était...
On rappelle que pour l'association qui s'appelle...
Wave for Water France. Et j'avais appliqué une méthode, c'était... Je m'adressais à un dispensaire médical, donc dans des petites villes, des petites bourgades. Je leur expliquais le fonctionnement et après je leur demandais à ce que le chef de village vienne. parce que je voulais que ce soit lui qui soit responsable de la gestion, de la distribution. Je ne voulais pas prendre la décision, je te le donne à toi et pas aux autres. C'est déjà difficile, il y a tellement de gens qui en ont besoin. Et surtout qu'on fait 18 millions de litres d'eau avec un seul kit, donc on purifie 18 millions de litres d'eau. Donc l'idée, c'était que beaucoup de gens en profitent et pas une famille avec un seul kit qui n'allait pas arriver jusqu'au bout. Et donc c'était le chef de village après qui a décidé de donner un, deux, trois responsables par quartier et qui les mettait dans des quartiers avec le fonctionnement et le fonctionnement partie médicale pour bien expliquer la partie sanitaire de l'objet, puisque je leur faisais une démonstration, c'est-à-dire que je faisais le montage du kit sur un seau, je remplissais d'une eau qu'ils avaient prise n'importe où et j'en faisais la démonstration, je buvais de cette eau pour qu'ils soient vraiment convaincus de la chose. Je leur montrais que moi j'avais une bouteille d'eau minérale et que je buvais jamais de l'eau autre que celle-là. Et que si je faisais ça, c'est que j'étais sûr de moi.
Et t'as pas été malade ?
Ah non. Non, j'ai bu. T'as bu de même, il y a des gens qui n'ont pas osé boire l'eau que j'ai bu, moi. Parce qu'elle sortait de. Ils me l'ont dit après. C'était dans une toilette. Mmh. Et ils prennent l'eau au pichet pour mettre dans le. Voilà. Mmh. Et j'ai bu cette eau, j'ai pas été malade. Hein. Mmh.
Donc c'est vraiment une bonne nouvelle.
Ah oui, non, c'est vraiment efficace. Non, et je n'ai eu absolument aucun problème de truc. Donc je me servais de leur panneau pour leur dire, mais voilà, si vous buvez de cette eau comme ça, la diarrhée là que vous marquez là sur vos panneaux pour prévenir, vous n'en aurez plus, il n'y aura plus de ça. Et donc là, les gens. Et puis alors le fait de me voir tester de boire l'eau, ça de suite, les gens allaient chercher des seaux d'eau et des
seaux de. Qui boit de l'eau comme ça.
Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, non, ça, je pense qu'ils ne voient jamais. Donc, Et même chez eux, l'eau en bouteille, alors c'est pas des bouteilles, ils ont des petits sachets plastiques de 20-30 centilitres à peu près, et ils s'achètent ça de temps en temps. Ouais. Mais bon, pour eux, c'est pas toujours évident. Ouais. Hein, donc, voilà.
Donc, expérience qui s'est un petit peu écourtée et que tu veux réitérer alors.
Eh bien, oui, parce que.
C'est vrai?
Oui. j'ai été bien sûr déçu de ne pas pouvoir continuer, hein, mais l'Afrique, c'est ça, hein, je le savais. Hein. L'Afrique, c'est très aléatoire en termes de passage de frontières, etc. Je le savais. Donc, déçu, bien sûr, mais bon, pas abattu. Et j'ai trouvé deux Français à Oman. Qui était un R80 GS et qui m'ont donné des coordonnées d'un transporteur pour envoyer ma moto sur l'Afrique du Sud. Et donc, normalement, je vais reprendre la suite de mon voyage en mi-novembre en Afrique du Sud et faire ou tenter, soyons.
De remonter par l'Est.
Voilà, de remonter par l'Est.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu retires de cette expérience?
Oh, ben avant tout humain, hein, franchement, bon, c'est même si la moto est un plaisir égoïste, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer ces gens, la gentillesse, leur simplicité. Bon, après, on mesure encore plus la difficulté de vivre dans ces pays-là. Hein, l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de manque d'eau. Hein, l'Afrique de l'Ouest a de l'eau en pagaille, hein,
mais pas de qualité.
Insalubre pour nous, pas Européens. Mais après la difficulté de travail, la condition de vie des femmes quand même qui est difficile, qui est plus dure. Hein, et là, quelle que soit la religion, hein, musulmane ou chrétienne, elles ont toutes les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'elles vont travailler au champ avec les enfants sur le dos. Ça, c'est pas une image de carte postale, ça existe toujours. Ça, c'est un peu difficile, mais bon, on ne peut rien changer, hein, c'est ainsi. Mais après, oui, les rencontres, oui.
Et par rapport aux autres grands voyages que tu as faits, tu sens une vraie différence, l'Afrique et le reste?
Oui, quand même.
Par exemple, par rapport à l'Amérique du Sud ou les pays de l'Est?
Oui, alors, en Amérique du Sud, ce qui se rapprocherait, c'est peut-être la Bolivie, qui est dans une phase proche des conditions de vie de l'Afrique, du moins de la partie africaine que j'ai faite, moi. Après, non, l'Amérique, par exemple, l'Amérique du Sud, Chili, tout ça, c'est très moderne. Même le Pérou commence à bien évoluer, même si tout n'est pas encore parfait, bien évidemment. Mais oui, l'Afrique, c'est vraiment le continent, je pense, le plus dur. Et je crois que ce qui reste à venir, notamment dans les parties beaucoup plus désertiques, comme la Namibie, comme le Soudan, comme l'Éthiopie, voire l'Égypte, ça doit être des conditions encore plus difficiles avec l'eau non seulement très difficile à avoir, mais en plus, voilà, qui n'est pas.
Après, les pistes ne seront peut-être pas les mêmes, ça sera peut-être aussi moins difficile que l'équateur,
oui.
Quoi,
hein,
que tout ce qui est équateur, quoi.
C'est ça.
La
c'est
moto,
ça.
Alors, est-ce que c'est adapté de 1200
GS? Ben écoute, la moto, elle a fait son taf. Certes, elle est pas, c'est pas la mieux adaptée, notamment pour le passage que je racontais, hein, le passage aux frontières entre les deux Guinées. Mais autrement, voilà, c'est une moto qui ne pose pas de problème, j'ai chuté, bon, c'est dur à la relever, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même, mais on trouve toujours quelqu'un, quoi, on est patient, il y a quelqu'un qui va passer, voilà, il y a toujours de, ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours de l'entraide. En Afrique, on n'est jamais laissé, les gens ne vont pas passer à côté de vous si vous êtes arrêté. En pensant que vous avez peut-être quelque chose et passer sans s'arrêter pour vous proposer de vous aider. Donc ça c'est. Voilà. Là-dessus, il y a quand même quelque chose vraiment humain.
Et c'était combien de temps de préparation ce voyage? Parce que du coup, tu te retrouves là à cette frontière, donc sans avoir cessé passer, il y avait un moyen de le savoir avant ou quoi?
Eh bien écoute, moi je ne l'ai
ça
pas
a
su.
Changé,
pourtant je me renseigne.
Ouais, te connaissant.
Internet, etc. On arrive à se renseigner. Et moi je n'ai rien su. Je n'ai rien su de ça. Se laisser passer. J'ai fait ma demande de visa Côte d'Ivoire, ça se fait par internet. Alors je trouvais bizarre parce qu'il ne me proposait que la capitale, mais bon, j'ai forcé, j'ai joint que je faisais avec mon véhicule, donc je n'arrivais pas à la capitale par avion. On m'a donné le visa sans me dire quoi que ce soit. Je me suis arrêté à une ambassade un peu avant à Dakar pour aller demander des renseignements. On m'a dit non, pas de problème. Donc tout le monde n'était pas informé. Et voilà. Donc,
oui, même là-bas sur place.
Non, tout le monde n'était pas informé de ça. Mais par contre, les policiers l'exigeaient. J'ai été contrôlé plusieurs fois en Côte d'Ivoire et je devais présenter, en plus de mon passeport visa, ce fameux laissez-passer.
Et le carburant, là, tout ça, pas de souci là-bas?
Non, ça a été. Non. Franchement, on trouve de l'essence partout. Il y a la Mauritanie où c'est un peu plus espacé, c'est-à-dire que moi, je l'ai traversé nord-sud. La Mauritanie, je ne l'ai pas visitée. Mais en gros, de la frontière marocaine jusqu'à Nouakchott, il y a à peu près 450 km. Donc, ma moto, c'est un Panzer, mais au moins, elle a une autonomie de 600 bornes, donc sans aucun problème.
Ça, c'est bien. Ouais.
Et après, pareil, pour rejoindre le Sénégal, largement suffisant pour cette moto-là. Par contre, si effectivement, on a des motos, des réservoirs plus petits, moins d'autonomie, oui, là il faut prévoir quand même
un bidon,
quelque chose, oui.
Et comme on est une émission de motard, donc les conseils, ça serait quoi justement?
Comment?
Comme on est une émission de motard, tout ça.
Mais le conseil, c'est d'y aller, franchement, c'est d'y aller.
Il ne faut pas avoir peur.
Parce que le problème, c'est la peur. Ouais. Et finalement, on se rend compte que les gens sont adorables. Quand je racontais ça à des gens autour de moi, ils me disaient oh là, tu vas en Afrique, mais là-bas, mais. Mais non, franchement,
oui.
Ce sont des gens, mais on a des leçons à recevoir de ces gens-là, de l'accueil, ils n'ont rien, ils partagent, c'est, voilà, quoi, ça c'est, je l'avais vécu en Iran, ça, et je l'ai revécu en Afrique.
L'islam et tout ça, je veux dire, ça, le voyageur, c'est quelqu'un qui est aussi, qui est...
Ah oui, pour l'islam, c'est très important, le voyageur.
Qui est très important,
oui, tout à fait. C'est une personne
quoi.
Très respectée, ouais, le voyageur, ouais. Et ça, c'est même un honneur d'accueillir un voyageur chez soi.
On est obligé de l'aider, quoi.
Ça c'est vrai et tu le ressens, hein, ça. Ouais. Jamais eu de truc, voilà. C'est non, voilà, c'est y aller, c'est oser, c'est si on a envie. C'est
et
pas
tout
se
seul,
dire...
c'est pas gênant.
Ben non.
Non, mais c'est.
Après, c'est vrai que c'est mieux à deux parce que bon, mais quand notamment t'as ta moto à relever, c'est plus facile, etc.
Mais tu partages les galères,
quand on part à deux, il faut partir à deux, voilà, vraiment, qui se connaissent et qui savent ce qu'ils vont faire. Et ça, c'est pas toujours évident à trouver, Même des fois, deux amis, de bons amis, ça peut être...
Non, mais dans des situations difficiles...
Difficiles, notamment, c'est là où on voit les choses et...
Parce que là, dans ta situation où t'as 10 bornes à faire de galère à bout, t'as beau être à deux... forcément, si les gamins ils t'aident pas,
mais à deux on passe pas, hein. Non, tu passes pas, c'était trop dur. 10 c'était beaucoup, c'était luxueux, mais je pense qu'il fallait 5-6 personnes, hein, quand même. Ah oui, quand il a fallu bouger, je l'ai changé d'ornière, etc. Oui, non, c'est voilà, mais seul ça se fait, je veux dire, c'est il faut pas avoir peur, quoi.
Ouais,
il faut pas avoir
ça.
Peur.
Si les gens veulent voir un peu ton trajet, il y a moyen de voir, t'as posé quelque chose ou...
Non, parce que je ne suis pas très... Alors, j'avais amené une caméra, j'ai dû faire 10 minutes de film.
Ouais.
Voilà, je ne suis pas
c'est
passionné,
pas
c'est pas mon truc. J'ai fait une petite page Facebook, le Tour d'Afrique à moto, que je reprendrai quand je vais prendre la suite. Donc ça, c'est Tour d'Afrique à moto sur Facebook, où je racontais un petit peu au jour le jour.
On a suivi un petit peu, on avait été étonné du retour et de la date de retour, parce qu'on n'avait pas trop compris ce qui s'était passé sur Facebook. Ouais. Quoi. Ouais. Mais c'est bien que ce soit uniquement une histoire de papier, quoi.
Oh
c'est...
oui. Ah. Mais après, bon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être matériel. Après, bon, évidemment, le risque 0% de risque, 100% de sans risque, ça n'existe pas. Alors, on peut avoir un accident, se faire mal, etc. Mais je me rappelle d'un motard, justement, après ce passage de frontière où ça commence une piste à être roulante. Et bon, je roulais cool quand même. Et puis les Guinéens sont un peu. Voilà, il avait sa 250 chinoise, il a voulu m'épater, à part qu'il s'est pris une belle gamelle dans un trou qu'il n'a pas bien vu. Bon, je me suis arrêté, j'ai aidé à se relever, etc. Ça allait, mais bon, voilà. Donc, c'est... Franchement, s'il n'y avait pas ce problème de visa pour la suite, bon, je ne veux pas refaire la même chose, parce que la traversée Maroc, Mauritanie et tout ce que j'ai fait, je n'ai pas envie de le refaire. Ah, ouais. Et comme je ne trouve pas de transporteur pour aller, par exemple, au-delà du Nigeria, bon, mais tant pis, je ne ferai pas ces pays-là, j'irai aux autres, et puis voilà, quoi.
Et avec la même moto.
Oui. Ouais.
Bon. C'est une belle expérience, hein.
Et ben,
on sent plein d'émotions quand même.
Et puis on attend la suite.
Il devrait y avoir une suite. Voilà, oui, il devrait y avoir une suite. Mais normalement, je pars mi-novembre. Voilà, je vais expédier ma moto fin août, début septembre. Et voilà.
Mais après, tu réitères un peu avec la saison des pluies et tout ça, là. Alors comment ça?
Non, là-bas, ça sera l'été, là-bas. Là-bas, c'est l'été, en Afrique australe. Donc la saison des pluies côté Namibie, mais côté Est, et au mois de novembre, mais je vais l'éviter, ça, parce que je serai dans la partie Afrique du Sud, et là, il n'y a pas de pluie, ou relativement peu. Et après je remonte, et après je sais pas, j'ai pas regardé les météos, je me pose pas de questions. Hein, ouais. Parce qu'effectivement, il y aura la partie Ouganda, Rwanda, et j'en oublie un autre, où là c'est bien arrosé, un peu comme l'Afrique de l'Ouest, hein, cette partie.
Ce qui est Équateur.
Équateur, voilà, c'est ça exactement. Mais bon, je me pose pas de questions, mais j'attendrai une semaine s'il faut, et voilà quoi. Sinon, on part plus, parce qu'un coup c'est la météo, un coup c'est ci, un coup c'est là. Si je ne peux pas rentrer dans un des pays grâce à d'autres voyageurs, je sais que je peux aller à Mombasa, envoyer ma moto à Oman, et après je reprends la route vers l'Irak, etc. Bon, voilà, il y a toujours des possibilités.
Donc ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut oser, quoi.
Oui.
Il faut oser y aller. Oh, oui. Oh, faut, oui. Peut-être, comme tu disais la dernière émission, l'Amérique du Sud pour démarrer, peut-être... se faire un peu la main.
C'est plus soft, oui. C'est plus européanisé, voilà. Américanisé, ouais. Du Nord. C'est plus simple. Même si la Bolivie, c'est un peu plus africain, entre guillemets, en condition de vie. Mais voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire en Bolivie. Hein. Oui, c'est assez facile. C'est assez facile. Voire même, bon, maintenant, ça commence à se rouvrir les frontières. Voire même aller... parce que l'année prochaine aussi, j'ai un projet de retourner au Pamir. Bon, enfin, voilà, j'ai des tas de projets. Oui. Le voyage, la rencontre, c'est...
Ouais, c'est formidable. Ouais. Alors, prenez vos mécanes et prenez la route et taillez.
Taillez
la route. Foncez, profitez.
C'est ça.
Tant qu'on peut encore circuler, il faut le faire, de toute façon. Parce qu'on a bien vu les périodes qu'on a traversées.
Tout à fait.
Donc, tant que c'est possible, il faut le faire. Il ne faut pas reporter les choses.
Il faut les faire. Un petit morceau de musique d'Afrique, alors, une idée?
Pas africain, mais la dernière fois, j'étais parti sur du hard rock. Et là, j'aime beaucoup Alain Bashung, et notamment La nuit, je mens. Un super titre.
On passera ça. Alors.
On passera ça. Et on attend la suite de tes aventures.
Voilà, donc on te revoit au mois de septembre ou au mois de septembre pour nous raconter tout ça. Tu repars avec
si les auditeurs n'auront pas marre de...
Pas, c'est une vraie expérience, c'est plein de richesses, c'est bien.
Ouais.
Non, super. Ben, merci Bruno.
Merci, et puis à la prochaine.
Au plaisir. Voilà.
Ciao.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. j'ai des gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore.